Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour une demi-heure de direct avec vous, toutes vos questions et notre invité du jour. Vous allez le découvrir qui est un comédien tellement présent à la télévision qu'on a un petit peu le sentiment de s'endormir et de se réveiller à ses côtés. Alors il faut savoir qu'au départ, il se baladait avec ses crampons sur des terrains de rugby avec les couleurs du Stade Français sur le dos, mais désormais, terminé le ballon ovale, à défaut de plaquer ses adversaires sur la pelouse, eh bien il plaque parfois ses compagnes dans certaines fictions comme Planqueur sur Netflix ou encore Je te promets plus récemment sur TF1. Et s'il s'arrête ce matin sur ce plateau, c'est parce que ce passionné de théâtre transforme l'essai dans une fiction qui nous ramène sur les bancs de l'école. Bonjour Guillaume Labbé.
Bonjour.
Bienvenue sur le plateau du Buzz TV. C'est un plaisir de vous recevoir. Ouais, France 2 donc poursuit la série intitulée L'école de la vie ce mardi en première partie de soirée sur France 2. Donc c'est une fiction dans laquelle vous endossez le rôle de Vincent Picard, qui est un professeur d'histoire-géographie dont nous allons parler dans quelques instants. Mais il faut savoir déjà que ce personnage, la vie ne l'a pas forcément épargné. Au lycée, il est confronté à des problématiques assez sombres comme l'alcoolisme, la maltraitance également, la précarité. Si je regarde cette fiction là ce soir, est-ce que je risque de sombrer dans une dépression abyssale, ou alors il n'y a pas que du drame là-dedans? Dites-moi tout.
Il peut y avoir la dépression. Non, honnêtement, il a une classe qui est... je souhaite une classe comme ça à personne. Ouais. Il a toutes les problématiques sur cette année. Donc, et lui, il vit un drame personnel. Après, heureusement, il y a beaucoup d'humour. Surtout à travers les élèves, en fait, ouais. et la vie scolaire. Et puis les autres profs, il y a quand même des profs qui sont très drôles.
Pourtant, votre personnage, lui, il n'est pas hyper fun, hein, pour le coup.
Non, franchement, non. Et ça a été un peu compliqué pour moi, parce que je suis quand même un mec très fun.
Oui, hyper, c'est ça.
Je suis à mourir de rire, ouais. Clairement. Mais sur le travail, sur le texte, c'était de me dire justement que Vincent Picard, c'est un mec... c'est pas un mec très drôle, en fait. Ouais. C'est un mec très sain, très franc, très... Et du coup, j'avais des moments en me disant, putain, là il peut être quand même marrant, il peut avoir, ouais, une bonne répartie et tout. Et entre le deuil qu'il vit et le fait que c'est pas un mec dans la vie qui est le plus drôle du monde, c'est pas Jonathan Cohen, quoi. Ouais. Et donc il y avait des moments où j'avais des bons trucs, je me disais, non, je peux pas les faire, Vincent, il a pas cet humour là
et ça, justement, comme dans la vie vous êtes un petit peu le roi de la boum, est-ce que la boum, vous avez dû... Ah oui, ça, c'est vrai que c'est l'expression des années 50.
Surboom.
Est-ce que vous avez éprouvé des difficultés pour vous glisser dans la peau de ce personnage? Est-ce que ça, vous avez dû vous préparer mentalement? Comment ça s'est passé, la préparation?
Non, mais comme sur tous les persos, j'essaie de trouver une facette de moi, ouais, que je vais beaucoup plus exploiter. Donc là, il y a une facette que je cache bien quand même, hein, dans la vie, mais de vraiment sincérité, de gentillesse, de bonté, de simplicité. Ouais. Il est pas calculateur, ouais, très altruiste. J'ai une toute petite facette de moi qui est là. Je l'ai vachement lustré pour ce rôle et je l'ai tourné vers le truc. Donc, j'ai essayé de me rapprocher du perso.
Eh bien, on va en parler dans quelques instants de ce personnage qui est assez fascinant. En attendant, je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page YouTube de TV Magazine et sur lefigaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions qui seront relayées tout à l'heure par Sarah Lecoeuvre. Qu'avez-vous pensé des 4 premiers épisodes de la série qui ont été déjà diffusés sur France 2? Quel regard portez-vous sur la carrière de Guillaume Labbé? Est-ce que vous rêvez secrètement d'une deuxième saison de Je te promets sur TF1, vous pouvez poser toutes vos questions. On y revient juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Salut Sarah.
Salut Damien. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Eh bien Sarah, c'est parti pour les audiences. Quelle chaîne est arrivée en tête hier?
Eh bien c'est France 3, grâce à la fiction portée par Astrid Veillon, Tandem. 4 400 000 Français rassemblés, ce qui représente 18,5% de part de marché. Donc un très joli score pour France 3, qui est devant TF1, qui lançait la première saison de Lincoln. Ah oui. Cette série américaine, 3 700 000 curieux et 15,7% de part de marché. Et en troisième position, c'est Le meilleur pâtissier, Les professionnels. C'était le premier numéro aussi de saison avec les premiers pas de Pierre Hermé dans le jury. Eh bien, 2,5 millions de gourmands étaient au rendez-vous et 11,6% de part d'audience. Et du côté de la TNT, eh bien, c'est W9 qui tire son épingle du jeu avec le film De l'autre côté du périph. C'est avec Omar Sy et Laurent Lafitte. Un peu plus d'1 million de cinéphiles et 4,5% de part d'audience.
Encore un peu de monde hier devant la télé. En même temps, à défaut d'aller au théâtre ou dans les salles de spectacle, on est obligé de se rassembler devant le petit écran. Vous qui êtes un passionné passionné de théâtre et qui avait d'ailleurs commencé, hein, je crois, sur les planches. Vous avez proposé un one-man show, je crois, à une époque également. Ouais. Guillaume Labbé Bois du Lait, je crois, ça s'appelait. Qu'est-ce que vous pensez justement de la fermeture des salles de spectacle et des théâtres? Est-ce que c'était essentiel? Est-ce que le gouvernement a pris une mesure là qui était un peu disproportionnée? Quel est votre regard là-dessus?
Je suis tellement pas spécialiste, c'est hyper dur. J'ai évidemment un avis au comptoir comme ça et j'ai un avis très tranché en disant les gars,
on n'a pas le vert là.
C'est dommage, voilà. Aux uns que je peux avoir un avis tranché. En vrai, je connais tellement pas toutes les problématiques, les tenants, les aboutissants. J'ai envie de dire, je pense que c'était respecté, que c'est hyper important et que, évidemment, que c'est vital, je sais pas, mais c'est ultra important. Mais peut-être que c'est à la sortie des théâtres, c'est le fait que les gens discutent à la sortie, à l'entrée, c'est la seule façon pour moi de me l'expliquer de manière rationnelle. Ils voulaient pas créer ces attroupements-là. C'est pas le problème, il est pas dans la salle. Donc, franchement, j'en sais rien.
Bon, après, il y a un horizon qui se dessine, en tout cas, dans les 15 prochains jours, je crois, les théâtres qui devraient rouvrir. Donc, on croise les doigts pour que ça se
passe. Ah, ça serait génial.
Et que ça rentre dans l'ordre. Et on poursuit ces news médias avec un petit coup de tonnerre dans le monde de l'information en continu, avec CNews qui passe pour la première fois devant BFM TV, qui se targuait jusque-là d'être la première chaîne d'info de France.
Et oui, la date du 3 mai 2021 est à marquer d'une pierre blanche pour la chaîne d'info du groupe Canal+. Ce jour-là, elle a dépassé, vous l'avez dit Damien, sa concurrente directe BFM. C'est une première dans l'histoire de l'ancêtre d'e-télé. Alors dans le détail, la part de marché atteinte par CNews est de 2,7% sur la journée, quand BFM est à 2,5%, donc 0,2 points d'écart. La semaine dernière déjà, l'écart s'était resserré entre les deux chaînes. Alors 7 jours plus tard, les courbes se croisent enfin grâce aux belles performances, notamment de Pascal Praud le matin, le soir, et puis Éric Zemmour et Christine Kelly, bien sûr. Alors, dans la foulée de cette annonce, eh bien, Marc-Olivier Fogiel, le patron de BFM TV, a envoyé un mail interne à ses équipes pour les rassurer. Même si ce chiffre ne manquera pas d'être commenté, gardons notre ligne, écrit-il. Alors, pour l'ancien animateur de RTL, les deux chaînes ne boxent plus dans la catégorie, clairement. CNews propose désormais une alternative totalement différente, une chaîne de débat et d'opinion. Voilà ce qu'il dit encore avant d'appeler ses équipes à cultiver leurs points forts, c'est-à-dire traiter l'information en continu et faire vivre les événements en direct aux Français.
Est-ce que vous êtes friand, vous, des chaînes d'information en continu? C'est assez addictif hein, quand on tombe dessus. Souvent, on a envie un petit peu d'y rester parce que vous avez un débat passionnant, parce que vous avez effectivement un événement majeur qui se dessine et vous avez envie de connaître l'aboutissement. Est-ce que vous regardez?
Non, moi j'étais comme un malade sur l'actualité et ça me stresse de fou. Ouais. Donc, et je me suis rendu compte que ça me rendait. Je suis un peu flippé. Ça me rendait peureux dans ma vie et donc j'avais les alertes comme tout le monde, je regardais et tout et en fait je flippais de ouf des nouvelles, donc je regarde moins. Et après ces chaînes là non, le truc c'est que c'est l'info en continu et que du coup il y a très peu de temps de traitement et donc du coup je trouve ça assez flippant parce que ça arrive presque en direct. Alors ces chaînes quand même font un boulot de journaliste, donc c'est quand même mieux qu'internet où il n'y a pas de traitement. Il y a un lien avec l'école de la vie aussi, il y a un épisode qui traite un peu de ça. Et je trouve que c'est trop d'infos qui arrivent avec pas le temps de la traiter, avec pas le temps de l'analyser. Et ce que je disais tout à l'heure, je suis pas un spécialiste. Du coup, en fait, ça me stresse, ça me fait flipper et ça m'extrémise dans des avis qui sont pas forcément les bons. Donc non, je suis pas fan de ces chaînes.
Justement, ça a été assez anxiogène récemment, les informations, notamment à cause de l'épidémie de Covid-19. Est-ce que ça aussi, cette épidémie-là, pour vous, ça a changé quelque chose? Est-ce que désormais, vous voyez la vie différemment? Est-ce que vous avez été d'ailleurs touché personnellement par...
Non, j'ai eu grave de la chance. Non. Moi, en fait, en plus, c'est une période où comme je travaille avec les plateformes et la télé, en fait, il y a du travail en tant qu'auteur, en tant qu'acteur, donc moi j'ai été stoppé que pendant le premier confinement, j'ai beaucoup travaillé donc c'est une chance énorme, donc du coup j'ai gardé une vie sociale en plus, donc j'ai été vraiment moins impacté que beaucoup de mes amis qui sont au théâtre ou qui bossent dans des boîtes et ça a été plus compliqué, donc moi non, à part le marasme, à part le fait que j'ai toujours les mêmes soirées qui se ressemblent et que j'en ai ras le cul de rentrer chez moi et de pas picoler avec mes potes, mais franchement c'est petit comme truc, je peux pas me plaindre.
Mais ça va revenir dans peu de temps, on espère, en tout cas avec le vaccin. Allez, on termine, Sarah, avec une actrice, tiens, Jane Fonda, qui a fait des révélations assez croustillantes sur le plateau de C'est à vous.
Bah oui, parce que lundi soir, Jane Fonda était l'invitée exceptionnelle de C'est à vous pour son unique interview télévisée en France. Pendant une demi-heure, l'actrice américaine de 83 ans a évoqué son engagement pour le réchauffement climatique et a raconté une savoureuse anecdote du tournage de Barbarella. C'est ce film réalisé par son ex-mari Roger Vadim, c'était en 1968. Regardez, on en apprend beaucoup sur le métier de comédien.
Est-ce que c'est vrai, Jane, que sur les conseils de Roger Vadim, vous étiez quelquefois ivre sur le tournage?
C'était pas les conseils de Vadim, il savait même pas. C'est quand je devais être nue, j'étais tellement pudique, j'avais tellement peur qu'en fait je devais boire de la vodka pour me détendre, pour ne pas avoir peur, pour ne pas être effarée.
Donc voilà, pour tourner des scènes de nu, elle buvait de la vodka. Est-ce que c'est vodka aussi, Guillaume, pour ces scènes-là?
Non, est-ce que c'est vodka ou votre vodka,
ah, oui.
Sarah?
Oui, je ne sans vous faire exprès.
Ouais, si, je le vois, il est noté sur le papier. Ouais, alors que vodka, facile, vodka, et rire même, oui, c'est pathétique.
C'est mercredi, on lâche les rênes, quoi.
Non, j'ai jamais été... J'ai une fois dans une pièce de théâtre, j'ai fait l'énorme erreur. Dans le week-end du 4, je me souviens, on avait de l'alcool sur scène, évidemment, c'était pas de l'alcool. Et une fois, on en a mis... Et horrible, c'est le pire moment de ma vie. En fait, le public n'a pas vu, mais moi, à l'intérieur, j'avais l'impression qu'on était en train de passer à côté du truc, que c'était un manque de respect fou par rapport au public et tout.
Ouais.
Ça a été horrible, énorme. Donc non, ça m'a...
C'était une blague qu'on vous avait fait ou...
Non, on s'est dit, c'était genre la dernière semaine, comme ça, on s'est dit, tiens, ça serait marrant, machin. Ça n'a pas été marrant pour moi.
Ah oui, vous êtes passé à côté de votre prestation.
Mais je n'exclus pas sur un tournage, sur des scènes, je me dis que ça peut être intéressant parfois.
Des scènes de nu aussi?
Des scènes comme de nu.
Jeanne Fonda, pardon.
Fondi.
Oh là, c'est compliqué ce matin.
Non, pour des scènes de nu, non, je sais pas, pour d'autres scènes. Je vais rester un peu mystérieux, je vais plisser les yeux et on va se dire de quoi il parle. Et moi-même, je ne sais pas, c'est évident, il y a un singe qui fait ça.
Mais c'est intéressant parce que les scènes de nu, c'est vrai que parfois les acteurs sont obligés de s'y prêter. Et vous, ça a déjà été le cas? Vous avez dû tourner des scènes de nu?
Ouais, j'ai fait alors j'ai un problème avec les noms, mais dans la suite d'Embrasser qui voudrait, d'Envoyer comme on danse de Michel Blanc, ouais. J'avais une scène comme ça avec Karine Viard où j'étais nu, j'accueille ma mère et puis je veux pas qu'elle rentre, donc j'accueille nu. Ouais. Donc ça, mais je suis pas trop gêné par la nudité. Je crois que j'étais tellement dans des vestiaires à poil dans la vie à faire du
en
sport.
En tant que rugbyman.
Ouais, voilà, je suis pas trop pudique par rapport à ça. C'est plus difficile sur les scènes où il y a une relation amoureuse, des scènes d'amour. Ou là, mais c'est surtout avec la comédienne ou le comédien. J'ai pas encore fait de scène homosexuelle, mais il y a un truc difficile parce que parfois on se connaît pas bien, et c'est surtout la proximité. Pas pendant que ça tourne pour moi, parce que pendant que je tourne, je suis dans le perso.
Ouais.
Mais quand ça se place, les caméras, les temps où il la lumière, t'es à ça de la tête de quelqu'un nu et on se connaît pas. Et là, vraiment,
il y a une forme de gêne.
Ah bah, tu parles de la météo, mais à un moment très vite.
Vous pouvez pas dire à votre partenaire à ce moment-là, bon, on est dans le personnage d'acteur même avant que ça tourne. Dites ça et puis là,
c'est compliqué. Non, parce que tu commences à l'embrasser, là, c'est ça devient bizarre.
Mais en tout cas, il y a un personnage que vous interprétez à merveille, qui est le professeur d'histoire-géographie, qui lui ne se met pas nu, je crois. En tout cas, on n'a pas vu les prochains épisodes.
Je réfléchis, mais je crois pas.
Bon, on va en parler tout de suite dans l'interview du Buzz TV, on va essayer de creuser ça. Alors, Guillaume Labbé, donc, L'école de la vie, je rappelle, c'est le titre de la série que France 2 poursuit ce soir à 21h05. Donc, vous y jouez Vincent Picard, un prof d'histoire géo que la vie n'a pas épargné, dans la mesure où sa femme, malheureusement, décède le jour de son accouchement. Pour ceux qui n'ont pas suivi les 4 premiers épisodes qui ont été diffusés au cours des 2 dernières semaines, comment votre personnage va-t-il faire pour affronter cette période de deuil?
Ah, il y a une... Ça, je l'ai vu avec une association, et puis dans le texte, c'est très bien travaillé par les auteurs. Il y a vraiment des périodes dans le deuil qui sont... Il y a 3 phases ou 5 phases selon les théories. Et alors, je ne sais pas si je m'en souviens, mais en fait, au départ, il y a vraiment un espèce de déni, et c'est ce qui fait qu'il retourne travailler d'une manière un peu mécanique. C'est-à-dire que l'esprit, et c'est ce qui fait qu'il ne va pas chercher sa fille à l'hôpital. C'est tant qu'il n'y va pas, ça n'existe pas. Donc, il essaie de survivre à ça. Et après, il y a la colère qui arrive. Et donc, ça reste un combat. À un moment, on accepte qu'il y a un drame qui s'est passé. Et puis après, petit à petit, il y a la souffrance, les émotions. Et donc, voilà, tu arrives à en sortir comme ça, mais c'est long.
Alors, on va se rendre compte, effectivement, que les blessures de ce prof vont faire aussi un petit peu écho aux problèmes que ces élèves peuvent rencontrer dans la vie. Quelles sont les situations que Vincent Picard va devoir gérer?
Il en a pas mal, justement.
À chaque épisode, il y en a une.
Ouais, il y a vraiment une situation. Ouais. Bah, je vais forcément en oublier, mais il y a l'alcoolémie, une élève qui boit, il y a la précarité sociale, il y a les violences physiques, un enfant qui est battu, il y a la grossophobie, il y a aussi le harcèlement scolaire dont la grossophobie.
La radicalisation aussi.
Il y a la radicalisation qui va, je sais pas si c'est pas dans, c'est dans le dernier, c'est dans celui qui va passer là ce soir. Ce soir, je crois que c'est le Enfin, la précarité, ça.
C'est la précarité, exactement. Mais c'est vrai que vous, le rôle de votre personnage, c'est un peu de régler aussi ces problèmes lors de chaque épisode. Là, on nage un petit peu en plein Joséphine Ange Gardien de la cour de récréation.
Bah, justement, bah, je pense que vous dites ça parce que moi, c'est ce que j'ai aimé quand j'ai lu, c'est qu'il n'y a pas un côté baguette magique de Joséphine Ange Gardien. C'est que je n'arrive pas en réglant le problème. Ça ouvre une discussion et puis surtout, il est quand même régulièrement renvoyé dans ses 22. Quand vous demandez comment il s'en sort, c'est aussi grâce à ses élèves parce que ça fait écho à sa situation. Et souvent, les élèves, donc il n'y a pas un apprentissage vertical, c'est assez horizontal. Et donc, ça m'a plu. Et surtout, c'est pas forcément réglé à la fin, c'est-à-dire que les problématiques restent et tout n'est pas magique.
Ça ouvre le débat en tout cas.
Exactement.
Mais c'est vrai que vous vous souvenez de cette série entre 93 et 2005, hein, France 2 diffusait la célèbre fiction L'Instit. Vous vous souvenez avec Gérard Klein. Et là aussi, les épisodes s'articulaient autour d'un problème de société. Est-ce que l'idée de l'école de la vie, c'est un petit peu aussi de reproduire ce schéma-là? Est-ce que vous en êtes inspiré d'ailleurs?
Alors moi, pas du tout, parce que je l'ai tout simplement pas vu. Les auteurs, peut-être, France Télé, peut-être, ils ont voulu faire
peut-être
ça.
Peut-être que les scénaristes ou effectivement ont eu en tout cas l'idée de ce schéma-là.
Ouais.
Sarah, on va du côté des internautes ?
Oui, nous sommes en direct sur la page YouTube de TV Magazine et j'ai une première question d'Emeline. Est-ce que ce personnage a éveillé chez vous un désir de paternité ?
Ah. Ah ben oui, c'est vrai que vous êtes papa, vous devez l'élever seul d'ailleurs, votre fille.
Ouais, c'est difficile. Ah ouais, mais j'ai très envie, j'ai déjà un désir depuis très longtemps, moi depuis que j'ai 20 ans et je suis pas papa, et j'espère que je serai papa.
Ah, c'est ça m'en sous peu, quoi. Bah allez-y, c'est le moment, faites la demande.
Evelyne ou Emeline, je sais pas, c'est l'ouverture, c'est moi ou c'est vous, je sais pas.
Alors, on se rend compte aussi que les fictions autour de l'éducation, elles ont vraiment le vent en poupe en ce moment à la télévision. Je peux vous citer La faute à Rousseau récemment sur France 2, Sam sur TF1 avec Natacha Lalinger, avec laquelle vous avez récemment tourné également, Le Remplaçant avec Joey Starr. Comment vous expliquez justement cet engouement si soudain pour ces fictions-là?
Je sais pas, c'est vraiment les diffuseurs.
C'est révélateur d'une époque peut-être, je sais pas.
Bah, je pense qu'il y a sans doute. Alors si c'est une analyse un peu des médias, j'imagine que quand même France Télé s'est dit, c'est quand même TF1 qui nous on est le service public et c'est TF1 qui a une série sur l'éducation nationale qui cartonne et nous on en a pas depuis l'Instit. Donc sans doute qu'ils ont briefé les auteurs là-dessus. Je crois aussi que La faute à Rousseau sur France 2,
c'est ça.
La faute à Rousseau et
avec Annie Dupéré,
et 30 vies, ces deux séries ont beaucoup plu. Je pense qu'ils en voulaient peut-être qu'une à la base, mais je pense qu'ils ont adoré les deux et donc ils se sont dit on fonce sur les deux, donc c'est ce qui a fait ça. Et puis je pense qu'il y a aussi un truc où on se rend compte que dans la société les professeurs ils sont c'est vital et que le métier il n'est pas forcément valorisé à hauteur de ce que ça devrait être, donc je pense qu'il y a aussi une volonté de sensibiliser le public, quoi. Enfin, la population.
Justement, vous parliez de La faute à Rousseau. En moyenne, l'audience a tourné autour des 2,8 millions de téléspectateurs, à peu près 12,5% de part d'audience, qui est plus ou moins les scores que là vous êtes en train d'enregistrer avec votre fiction. Est-ce que les objectifs sont atteints? Est-ce qu'on vous a donné des clauses d'audience? Est-ce qu'on vous a dit, Guillaume, ce serait quand même pas mal si on dépassait la barre des 3 millions?
Non, j'y pompe rien, déjà. C'est-à-dire que moi, quand on m'appelle, le jeudi matin à 9h en me disant on a fait tant, on est hyper content. Le premier soir, on a fait. Je crois que c'était 4 millions. Peut-être dire une bêtise, vous le savez.
Vous avez fait un peu plus, c'est ça. En fait, ça a un peu baissé sur
3 millions 5. Ouais, 3 millions 5 et en consolidé 4 millions. Et en consolidé, déjà, c'est un mot que je connais. Donc,
bravo.
J'aimerais que tout le monde soit.
Avec les replays, ça veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas.
La deuxième soirée, on était à 2,8 millions avec les consolidés. J'espère qu'on sera à 3,5. Mais franchement, ces chiffres ne me parlent pas énormément. Je fais, ok, quand on était devant TF1, c'était cool, le meilleur pâtissier. Ouais. Pourquoi les gens regardent ces trucs de pâtisserie, là?
C'est vrai, c'était ça n'a
aucun sens. Arrêtez, tout le monde, avec la bouffe et M6, là.
On peut pas les goûter, autant les faire nous-mêmes, c'est vrai que c'est ridicule.
C'est pas plus intéressant de parler de harcèlement scolaire, peut-être? Voilà.
Alors qu'hier, Pierre Hermé, qui était sur ce plateau, disait que c'était formidable. Hein, c'est vrai.
Oui.
Non, mais voilà, on change notre veste aussi. Sarah, on tombe du côté des internautes.
Oui, et cette question de Sophie, quel impact a eu Planqueur, selon vous, dans votre carrière? Est-ce que ça a changé des choses?
C'est un tremplin pour vous?
Je sais pas du tout. C'est pas mal de dire. En fait, j'en sais rien. C'est-à-dire que
le téléphone a peut-être plus sonné après, non?
Ça sonne pas de ouf. Hein.
Ah bon?
Quand même. Après Planqueur,
Mais il y a eu. En fait, j'ai fait du théâtre beaucoup. Ensuite, j'ai eu la chance de faire beaucoup de cinéma. Je vais me détendre. J'ai fait, je crois, 4 ou 5 films. Et ensuite, il y a eu la télévision. Et en fait, c'est un chemin assez linéaire où moi, j'ai pas senti un coup d'accélérateur de fou à des moments donnés.
Mais pourtant, aujourd'hui, vous tournez beaucoup. Comme je disais tout à l'heure en introduction, vous étiez sur TF1 il y a quelques semaines dans Je te promets. Maintenant, vous êtes dans une fiction récurrente sur France 2. On n'avait pas le sentiment de vous voir aussi souvent avant. Est-ce que c'est pas lié à Planqueur, ça vous, c'était des projets que vous aviez signés même avant l'été?
Non, pas du tout. En fait, les projets arrivent au fur et à mesure. Je sais pas dire, parce que c'est, y a un travail de fond qui se fait, parce qu'on passe des essais, on rencontre des directeurs de casting, on rencontre des réalisateurs, parfois des projets qui devaient se faire, qui ne se font pas, ils pensent à nous sur un autre projet. Il y a cette espèce de maillage qui est un peu plus large qu'un projet qui tout d'un coup fait exploser. Je pense surtout que Planqueur, je ne tiens pas le rôle titre, donc je ne pense pas que j'ai été le plus mis en avant, même si j'ai fait une performance exceptionnelle. Je veux dire.
Et ça revient d'ailleurs, vous tournez.
On a fini la saison 3, qui devrait être la dernière. On l'a fini là, il y a quelques semaines, et ça va sortir fin décembre, fin d'année, je crois.
Et vous êtes triste d'ailleurs de la fin de la série.
J'ai pleuré.
Vous avez pleuré.
C'est dur de remettre ça sur le tapis. Mais en vrai, c'est triste parce que les séries où on se retrouve, déjà, on s'entend très très bien, que ce soit avec les équipes qu'on a retrouvées chaque année et les comédiens. Et puis le fait que ça s'arrête, il y a un truc triste. Et en même temps, c'est cool. C'est cool aussi que de lâcher un projet et de se dire j'ai plus de temps pour d'autres trucs. C'est cool.
Et tant qu'on est sur Planqueur et Netflix, c'est vrai que chaque matin, on donne les audiences télé parce que Médiamétrie nous envoie les chiffres. Avec Netflix, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est la plateforme qui décide de communiquer ou pas les audiences. Est-ce que vous les avez, vous savez?
Non, mais on a l'impression que c'est le mystère. On a l'impression que c'est de la
même
physique
nucléaire. Même vous, vous ne les connaissez pas.
Ils ont le code. Ouais. Non, mais on a des fourchettes, mais c'est ce qu'ils veulent bien nous donner. Donc, j'ai aucune idée de si c'est vrai parce que en disant s'ils disent on a fait 15 millions sur le truc, ils peuvent dire ça et puis après on relaye une information et ça donne une valeur énorme. J'en ai aucune idée. Parce que là, je suis pas en train de traiter Netflix de menteur. C'est des gens extraordinaires. Non, mais j'en sais rien. On les a pas. Je crois que c'est les auteurs qui les ont. Parce que la SACD, il y a eu un accord et tout. Donc,
la fourchette qu'on vous donne, c'est quoi? C'est ça? C'est ça, 15 millions à peu près
Je crois que c'est plus. Je crois que c'est énorme. Réellement, ça, pour le coup, par contre, l'impact professionnel, je ne sais pas. L'impact perso, c'est vrai que c'est fou parce que comme ça sort dans 80 pays, alors là, il y a des. Je vois sur Instagram, parce que là, il y a des gens de tous les pays qui envoient des messages. C'est assez fou quand ça sort.
C'est vrai que ça vous donne une sorte de notoriété internationale aussi.
Moi, je voyage beaucoup plus là. Je suis reçu dans beaucoup plus de pays. Non.
Comme un président, quasiment.
Comme Chirac, quand il est dans les îles, on met des trucs.
C'est assez
incroyable.
Pourquoi
j'ai pensé à ça?
Mais est-ce que vous avez plus de projets aujourd'hui avec Netflix? Est-ce qu'on vous propose d'autres rôles hormis Planqueur?
Non, sur Netflix?
Oui.
Non, pour l'instant, on ne m'a pas proposé d'autre chose. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis naze et qu'il n'aime pas ou parce que...
Steven Spielberg vous a appelé récemment, je ne pense pas que ce soit le cas.
Oui, mais ce n'était pas pour Netflix, ça me fait plaisir que vous en parliez, c'est effectivement pour Disney. Non, mais je ne sais pas si quand on est sur une série à eux, dans un des personnages principaux, s'ils ne mettent pas sur l'autre, je ne sais pas.
Ah oui, si, effectivement, oui. Oui, parce que c'est vrai qu'à la télévision, en l'occurrence, quand vous fonctionnez bien sur une chaîne, on a tendance ensuite à être... Enfin, vous avez tendance à être appelé sur une autre chaîne parce que, voilà, on a beaucoup de comédiens comme Laetitia Milo, Camille Lou également, ou Julie Debona qui sont extrêmement présentes en télévision parce que dès lors qu'elles sont dans une fiction, elles fonctionnent.
Oui, c'est vrai.
Alors c'est vrai que les plateformes de SVOD, ça représente un terrain de jeu assez incroyable. Néanmoins, question qu'on se pose vraiment ici, où est-ce que vous êtes le mieux payé? À la télévision ou sur Netflix? C'est quoi les...
Très honnêtement, en fait, ça dépend tellement du projet et du rôle qu'on a.
C'est deux économies différentes,
même sur la plateforme et sur les chaînes, il y a une économie différente selon le projet. C'est-à-dire qu'il y a des projets où il y aura plus d'argent. Ça dépend aussi d'à quel point ils nous veulent sur ce rôle. Ouais. Donc, ça dépend d'à quel point on négocie bien notre agent. Donc, c'est hyper dur de donner une fourchette, de dire... sur Netflix, moi, j'ai des potes qui sont... trois fois moins bien payés que moi, par rapport à d'autres qui sont mieux payés, et c'est pareil en télé.
Parce que la réputation de ces plateformes-là, un acteur dont je tairai le nom, qui a tourné dans une série très regardée sur Netflix, nous disait en coulisses que c'était assez mal payé finalement, que Netflix avait cette réputation de ne pas payer. Enfin, c'est ce qu'il nous disait, il paye bien sûr.
Moi, je peux pas me plaindre sur Planqueur, mais aussi c'est parce qu'on est arrivé comme la deuxième série française, donc peut-être qu'ils ont la même politique Amazon. Je crois qu'ils démarrent, peut-être qu'ils payent mieux, et ensuite ils se rendent compte qu'il y a un intérêt des comédiens parce que ça les expose. Ça, je ne sais pas, leur politique, ça dépend tellement des projets, je ne sais pas. Mais oui, j'ai ouï dire qu'il y a des comédiens sur des projets qui sont gros, qui sont pas forcément payés autant que moi, alors que moi, je suis beaucoup moins gros dans ce projet-là. Et encore une fois, je ne sais pas si c'est la notoriété, si c'est...
C'est assez obscur.
Ouais, grave. C'est tellement au cas par cas, c'est fou.
Allez, Sarah, on retourne du côté des internautes.
Oui, j'ai une question sur votre CV, Guillaume. Une question de Charles. Pourquoi n'avez-vous pas percé dans le rugby ?
Ah ben oui, tu vois.
Ben alors, ça me permet de répondre à ça. C'est vrai qu'il y a une histoire un peu romantique, romanesque, de c'était un mec qui aurait pu avoir une carrière rugbyman professionnel. On m'a même dit espoir de l'équipe de France. Et vraiment,
j'ai eu un temps où
je me disais, est-ce que je laisse croire ça ? Et puis, je me suis... Donc, non, en fait, le truc, c'est que j'avais pas du tout le niveau. Ça veut dire que je les ai vus, les mecs qui étaient vraiment très, très forts. J'ai joué avec Benjamin Kaiser, qui est devenu pilier en équipe de France, pilier, talonneur, qui était surclassé. Je voyais des gars qui étaient bien meilleurs. Moi, je faisais des études de psycho à l'époque. Donc, j'étais au stade à côté. Et après, j'ai été d'ailleurs, la majeure partie de ma carrière, j'ai fait à Suresnes. J'étais en Fédéral 1, Fédéral 2. Donc, j'étais un bon joueur de 3e ou 4e division. Donc, j'étais semi-pro, j'étais payé, mais c'était du cash dans une enveloppe. J'étais pas un grand joueur. J'aurais pas pu être un joueur pro.
Alors, vous, Guillaume, la particularité des rôles que vous avez joués ces derniers temps, c'est que vous interprétez toujours un personnage qui a une vie sentimentale assez tourmentée. Que ce soit dans Planqueur, dont on vient de parler, ou encore dans L'école de la vie, ou même Je te promets sur TF1. Mmh. Hein, c'était aussi assez compliqué, les relations que vous pouviez avoir avec ces mesdames. Pour quelles raisons les réalisateurs vous voient-ils un petit peu comme le petit ami des abusés ? Est-ce que vous avez une raison à ça ?
Alors, ça, je sais pas. C'est vrai, je sais pas, putain. En tout cas, moi, j'adore.
Vous n'avez jamais posé la question ? On vous demande souvent.
Ça me paraît tellement logique parce qu'il n'y a pas de relations amoureuses qui sont bien.
Qui sont simples, ouais, oui, en tout cas.
Bien,
ouais.
Tout court, ouais. Je crois. Non, mais l'amour, c'est compliqué, donc je pense qu'il y a beaucoup plus. Et puis, c'est beaucoup plus dans la fiction, c'est plus intéressant une relation qui se passe de manière difficile qu'une relation qui se passe bien, sinon, au bout de 10 minutes. D'ailleurs, mais bon, je ne sais pas pourquoi c'est moi, peut-être que. Je ne sais pas ce que j'inspire.
Mais vous n'avez pas envie de jouer un flic comme tout le monde à la télévision ? Ça ne vous tente pas ?
j'ai fait un flic dans une série qui s'appelle Trauma. Ouais. Mais alors, ce n'était pas un flic, c'est un flic qui prend une balle dans la tête dès la première
épisode. Ah oui, donc vous aviez une espérance de vie assez courte.
Mais il a amnésie, qui survit. Ah. Donc, c'était un... des rôles de flic... J'ai juste du mal avec le... de passer des infos de flics. J'ai parfois lu des choses avec des rôles de flics et parfois, j'ai du mal. Il faut qu'il y ait J'aime bien quand il y a un biais. Mais ce qu'ils font d'ailleurs, parce que dans... Sur France 2, ils ont un truc avec Gilles Alma comme ça où il est
j'ai plus le titre effectivement.
Il a peur de tout, des maladies et tout. Ouais. Il y a toujours un angle là dans HPI. Donc ça m'intéresse. C'est un rôle de flic où il y a un angle.
Il y a quelque chose à côté, c'est ça.
Ouais, exactement.
Effectivement. Sarah.
Oui, alors bon, je vais rebondir sur cette question parce que j'ai plein de questions dans le chat là-dessus, plein de femmes qui vous demandent si vous êtes célibataire, dont Fanny qui est sur le chat avec nous.
Il risque d'y avoir des demandes en mariage juste derrière. Hein. Non,
vous répondez parce que là,
ça, c'est vraiment, c'est une règle de ne pas parler de ma vie privée, donc je ne parle pas de ma vie privée.
Vous allez faire des déçus.
Désolée, Fanny.
C'est terrible. Non, mais je vais aussi créer un mystère.
Bien, oui.
Attention, mystère et la séduction, ça marche quand même très bien. Célibataire, je sais pas.
Il est mystérieux, ce garçon.
C'est fou, mais sa manière de bouger est mystérieuse. On sait pas.
On sait rien. Allez, une toute dernière question, Guillaume, avant qu'on passe à notre dernière rubrique. Le prochain téléfilm ou la prochaine série dans laquelle on vous verra, ce sera quoi ? Vous savez ?
La prochaine. Alors, il y a quelque chose sur Disney, mais on peut pas dire. Parce
d'accord.
Que c'est pareil que Netflix, tout est quand même mystérieux. Ça sera, je sais pas si ce sera la deuxième saison de Je te promets, si ce sera la série Disney ou si ce sera. Ou si ce sera Netflix.
Il y aura une deuxième saison de Je te promets, ça c'est sûr.
Oui, c'est sûr, on commence à tourner mi-juin.
Et quelles seront pareil, ce sera vraiment une sorte de... Enfin, copier-coller, c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, mais est-ce que ce sera vraiment la déclinaison de la deuxième saison de This Is Us ?
Oui, ça reste... les personnages restent... c'est les mêmes trajectoires de personnages, donc ça reste adapté, donc très très français.
D'accord.
Mais, on suit ces personnages.
Et vous tournez à partir de
Mi-juin.
D'accord. Donc ça arrivera.
Ça arrive vite là. Faut que je bosse. Hein.
Effectivement, faut apprendre les textes, Guillaume. Ouais. Hein. Qu'est-ce que vous faites là ? Allez, on termine cette émission avec notre rubrique le sucré salé. Alors, on va vous soumettre deux propositions. Il faut que dans l'idéal vous n'en choisissiez qu'une, mais c'est pas si évident que ça. Vous allez voir. Planqueur ou Je te promets ?
Je te promets.
Je te promets. C'est un rôle qui vous a particulièrement marqué que vous avez joué dans cette série.
J'adore la trajectoire de l'immaturité de ce personnage. J'adore le fait qu'on revienne dans le passé et qu'on comprenne des comportements présents grâce au passé. Vraiment, j'aime beaucoup ça. Et puis, j'aime ce mec immature qui est insupportable et qui, petit à petit, se heurte à la vie, grandit et devient un homme. Ça, j'adore la trajectoire.
Et ça vous correspond plutôt bien. Un ancien footballeur, là, en l'occurrence, qui souhaite devenir acteur, vous, ancien rugbyman.
Ça marche. C'est surtout l'immaturité et le fait de devenir un homme qui me parle.
J'ai pas osé vous le dire. Netflix ou TF1 En fait, plutôt les plateformes ou les chaînes de télévision aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous plaît le plus?
Alors, en spectateur, moi j'aime les plateformes parce qu'il y a une liberté de ton. Forcément, ils peuvent plus taper dans des niches, c'est-à-dire que c'est moins important pour eux de faire très large parce qu'il y a à boire et à manger pour tout le monde. Donc du coup, moi j'arrive à trouver des choses de genre. J'aime bien les séries de genre, par exemple, qu'on va beaucoup moins avoir en télé. En spectateur, ça, en comédien, ça dépend que du rôle. D'accord. Ça dépend vraiment que du personnage qui se développe et évidemment du réel et tout ça. Donc, que ce soit une chaîne ou une plateforme, ça peut être génial ou ça peut être nul.
Le drame ou la comédie?
C'est tellement, les deux sont tellement intriqués. Pour moi, c'est pas drôle si c'est pas dramatique. Ouais. Donc, en gros, c'est trop dur.
Les deux sont liés, quoi.
J'adore cabotiner, j'adore l'humour. C'est tellement lié que je peux pas le.
En même temps, les personnages dramatiques sont souvent un peu plus. Il y a plus de relief.
Ouais, et puis ils peuvent être tellement drôles. Enfin, le pathétisme me fait mourir de rire. Les gens, la peur, tout ça, ça me fait marrer.
Allez, dernière pour la route. La célébrité ou l'anonymat?
Alors. La célébrité, pour la liberté que ça peut donner dans mon métier, métier, il nécessite quand même d'être un peu célèbre pour pouvoir avoir de plus de propositions intéressantes. Et après, franchement, pour la vie...
Pour la liberté aussi.
L'anonymat pour la vie, pour la liberté aussi, ouais. Ouais. Mais pour la vie, Mais après, c'est très sympa. Donc, il y a des choses qui sont... Franchement, il y a des choses qui sont géniales. Il y a des gens qui nous... Le bar en bas de chez moi, je sais qu'il me traite mieux parce qu'il me connaît un peu. Donc, c'est impossible de gueuler. Et par moments, c'est génial. Et d'autres moments, ça peut être flippant. Et encore, moi, je suis pas connu. Enfin, je suis très peu connu. Donc, c'est quand même chambé. Moi, quand j'étais avec des acteurs, j'étais avec Roche Dizem quand on tournait Les Hommes du Feu. Ouais. Il a une oreillette dans l'oreille en permanence avec son truc. Putain, je suis en train de dévoiler son truc.
D'accord,
en fait, il a ça, non, mais, parce que les gens viennent tellement interrompre qu'il faut qu'ils fassent semblant d'être au téléphone. Nous, on joue au backgammon ensemble. Ouais. Les gens n'arrêtent pas pendant ces parties, viennent lui parler. Ils sont gentils, mais je me dis, ça doit être lourd.
En tout cas, vous êtes suffisamment connu pour qu'on vous fasse des demandes en mariage en direct la page YouTube de TV Magazine. Dans le doute. Vous avez un petit peu répondu à la question de tout à l'heure. Merci beaucoup, Guillaume Lavé, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre bonne humeur. Je rappelle que l'on vous retrouve donc dans la peau d'un prof d'histoire géo. C'est ce soir dans l'école de la vie sur France 2. C'est à 21h05. Merci encore d'avoir accepté notre invitation.
Merci
Sarah pour les news médias et puis pour les questions des internautes. Et nous, on se retrouve demain avec cette fois-ci un journaliste qui part souvent de rue sur France 5 dans le magazine Échappée Belle. Il s'agit d'Ismaël Khalifa que nous recevrons demain sur ce plateau. À l'heure où on ne peut plus voyager, ça fera une petite bouffée d'oxygène.
Bien, ouais.
Exactement. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à demain pour un nouveau Buzz TV.